Aujourd'hui, nous allons parler du territoire qui englobe les quartiers des Vernets, des Acacias et de la Praille, une surface de 220 hectares, qui se dessine comme une des pièces majeures du développement urbain de l'agglomération genevoise de ce 21e siècle. Et nous sommes avec deux architectes, Patrick Hebby, qui est le président du jury qui a été lancé par la Fédération des architectes suisses section genevoise. Patrick Hebby, bonjour, vous êtes aussi...
Bonjour, merci d'abord de nous accueillir. Alors effectivement, je suis le président du jury de ce concours qui va se réunir dans le courant du mois d'octobre pour juger les propositions qui nous sont parvenues de différents points d'Europe et que nous n'avons pas encore ouvertes. Donc nous sommes dans l'expectative et nous nous réjouissons de découvrir ces projets et d'en extraire le meilleur.
Et nous sommes également avec Bruno Bessière, bonjour.
Bonjour.
Qui est de la Fondation Braillard, qui est la Fondation, quel rôle joue-t-elle ou quel rôle a-t-elle dans ce projet ?
Nous, on est plutôt à la fois en amont et en aval, c'est-à-dire que bien entendu, ce concours, c'est d'abord un travail important qui est fait par l'ensemble des concurrents. Hein, entre 50 et 100, on verra à peu près projets vont arriver, enfin sont déjà arrivés en partie. Et donc, quand la Fédération des architectes suisses, la section genevoise, présidée par Patrick Hebby, a eu l'idée de ce concours, c'est vrai que la Fondation Braillard a été très enthousiaste pour des tas de raisons. On en reparlera, puisque c'est quand même une excellente idée. Et donc, nous, si vous voulez, on a une structure qui nous permet d'assurer un peu la logistique, le secrétariat, notamment pour les architectes qui n'ont pas encore tout à fait terminé. La Fondation restera ouverte une partie de la soirée très tard pour rendre les projets. Et puis ensuite, une fois que le jury présidé par Patrick Hebby, donc en face de nous, aura rendu un peu son classement, ses verdicts, etc., on espère beaucoup produire avec donc la Fédération des architectes suisses une publication d'importance, plus quelques expositions, et surtout nourrir à nouveau des débats dans la République, donc disons fin octobre, courant novembre, et une publication qui sortira, j'espère, très vite après.
Donc, pour préciser auprès de nos auditeurs, il s'agit d'un concours qui a été lancé auprès des architectes suisses et étrangers pour proposer une solution dans un quartier précis qui est celui des Acacias à la Praille.
Exactement. Donc, le site, c'est bien celui-ci, les 220 hectares de la Praille. Le sujet, c'est de proposer un nouveau morceau de ville qui comprenne à la fois un nombre très important de logements, des équipements publics comme écoles, etc., qui sont liés au programme de logement important proposé, et puis des équipements à l'échelle de la ville entière, puisque nous pensons que, des équipements culturels comme le musée d'ethnographie ou alors la Nouvelle Comédie pourraient tout à fait trouver place dans ce nouveau morceau de ville à créer.
Et à quel titre ou pourquoi avez-vous décidé de lancer cette initiative ? Est-ce que c'est pour réveiller les politiques ou est-ce que vous vouliez apporter apporter une pensée nouvelle ?
Alors, je dirais que cette initiative est née de différentes ambitions. La première, c'est peut-être de saisir une opportunité. Il nous semble que ce secteur au centre de l'agglomération genevoise a un potentiel important. Il nous semble que les administrations municipales et cantonales n'en ont peut-être pas saisi tout à fait l'importance. Donc voilà, c'est un aiguillon, ce concours. C'est également pour nous une occasion de montrer que la ville se développe, peut se développer par projet. Il s'agit de faire preuve d'ambition pour le développement d'une ville, et il nous semble parfois que l'ambition à Genève passe plus par la mise au point de règlements et peu par la mise au point de projets concrets. Donc c'est pour nous une occasion de montrer, nous l'espérons, qu'un grand projet peut voir jour à travers une image et puis un projet à développer par la suite.
Mais en regardant la superficie, cette enclave des Acacias à la Praille, c'est le dernier des grands espaces possibles.
Alors, ce n'est peut-être pas le dernier des grands espaces possibles, mais c'est un grand espace extraordinaire puisqu'il est situé vraiment dans le centre et il est, extrêmement bien desservi en réseau de transport en commun puisque la nouvelle ligne de tram le traverse, le CEVA que nous espérons tous voir arriver le ceinturera puisqu'il aura deux arrêts au bord du périmètre de la Praille. Et c'est une zone qui est d'une part largement sous-utilisée à notre sens. Les activités industrielles et artisanales occupent finalement assez peu de la surface disponible. Et c'est une surface également qui est en grande partie en main d'une fondation proche de l'État, la FTI, qui gère pratiquement l'ensemble de ces surfaces. Donc, à tout point de vue, cela semble être une opportunité fantastique pour le développement de la ville de Genève.
Il semblerait que de nombreuses entreprises privées déjà saisissent cette opportunité. Je pense aux grandes entreprises, les banques, on pense à Pictet, à Rolex, à MediaMarkt qui s'installent dans ce quartier.
Effectivement, c'est une bonne chose.
L'UBS,
qui est un peu plus ancienne. Effectivement, il y a des grandes implantations qui sont en phase de réalisation ou qui viennent d'être terminées récemment. Mais il faut bien se rendre compte que 220 hectares, c'est une surface absolument gigantesque. Ces implantations qui sont plutôt le signe du potentiel qui existe à cet endroit-là ne sont que des amorces de ce que pourrait être un développement important de ce quartier.
Alors, est-ce que pourriez nous préciser comment vous voyez cet aménagement ? Quelle est la taille ou l'enjeu de votre projet ? Est-ce que vous voulez créer une cité sur ces 220 hectares ?
Alors, il faut bien se remémorer ce qu'est un concours. Quand on est architecte et organisateur d'un concours, on est dans une situation un petit peu frustrante puisqu'on ne fait pas de projet, on invite des personnes, des inconnus, à faire des projets pour nous. Simplement, on les invite à nous stimuler et à faire des propositions intéressantes. Donc là, nous sommes aujourd'hui dans une situation encore plus particulière puisque ces projets, nous savons qu'ils sont arrivés maintenant à la Fondation Braillard, nous ne les avons pas encore vus. Nous sommes surtout curieux de les découvrir et puis de regarder ce qu'ils vont nous suggérer. Voilà. Par contre, nous, comme organisateurs, nous avons défini, c'est le programme. Donc, c'est 20 000 logements et tous les équipements qui vont avec, c'est-à-dire vraiment un pan de ville entier. Notre ambition, notre projet, il est là, dans ces données quantitatives. La forme, l'image, la créativité, nous l'attendons des concurrents.
Est-ce qu'on peut dire qu'un des premiers objectifs est de répondre à la pénurie de logements ?
Bien sûr, nous pensons qu'il y a là une occasion formidable de régler une part importante du problème de la pénurie de logements en périmètre urbain, en offrant un environnement de qualité pour ces nouveaux logements nécessaires à Genève.
Alors, une fois les décisions prises, vous allez remettre le projet. Le projet, il est soumis à un jury d'architectes suisses et internationaux.
Oui, effectivement. Dans ce jury, nous avons un certain nombre d'architectes de très grande valeur venant pour l'essentiel de Suisse et de France. Et ensuite, ce projet-là, ces projets, nous allons simplement les offrir à la collectivité et libre à toutes les personnes intéressées d'en faire le meilleur usage.
Et quelle sera la place de la ville du canton dans ce projet ?
Alors la place de la ville et du canton seront celles qu'ils voudront bien prendre. Voilà, nous en sommes à ce stade. Nous allons mettre sur la table ces propositions. Nous allons organiser des débats autour de ces propositions-là, auxquelles seront bien entendu invitées les autorités. Et nous espérons qu'il en sortira des choses intéressantes.
Donc l'enjeu principal est donc de repenser une grande partie de la ville.
Ils ont une part importante.
Une part importante. Mmh. Et qui touchera en même temps la zone frontalière. Est-ce que vous...
Alors non, alors géographiquement,
Enfin, il y aura des répercussions, je voulais dire.
La PRAI n'a pas de répercussions directement sur la zone frontalière. Par contre, c'est une zone qui est centrale dans le réseau SEVA. Hein. C'est quelque chose qui... Cette ligne SEVA, qui est un projet transfrontalier, puisqu'il s'étend jusqu'à Annemasse, cette ligne-là va relier différents points des zones limitrophes à la ville de Genève, à son centre, et en particulier à la zone de la Praille. Donc c'est un projet qui est lié à la zone frontalière, principalement par le biais du SEVA.
On a l'impression que si les transports publics étaient déjà là, que tout était prévu pour que cette zone soit habitée, mais que les pouvoirs publics sont passés juste à côté de l'aspect du logement, en fait. On pouvait amener des gens là-bas, mais il n'y avait pas vraiment de projet pour faire habiter des gens dedans.
Alors, c'est particulier. Il faut voir que le SEVA, c'est une ligne de transport régionale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, à mon sens, prévu pour déplacer des gens d'un point à l'autre de la ville, mais plutôt pour amener des gens de l'extérieur de la ville vers le centre de l'agglomération et vice-versa. Donc, on peut imaginer que le SEVA serve autant à amener des gens habitant en périphérie vers leur lieu de travail qui pourrait se trouver, par exemple, à la Praille, que à déplacer des gens du centre-ville vers des lieux de travail situés en périphérie. Donc de ce point de vue-là, une occupation artisanale et industrielle à la Praille a tout son sens et nous souhaitons la maintenir et la compléter par des logements.
Il y a cet aspect de mixité entre l'aspect commercial et artisanal et d'habitation qui est très important dans votre projet.
Pour nous, c'est ce qui fait le charme de la ville, c'est une mixité d'offres, de possibilités offertes aux habitants et aux personnes qui y travaillent.
Peut-être que si je pouvais rajouter quelque chose, Genève aujourd'hui, parmi les villes de sa catégorie, même si c'est une ville un peu à part et d'exception, donc mettons une ville en gros de 500 000 habitants, le Grand Genève actuel, enfin le petit Grand Genève, le très Grand Genève va jusqu'à 800 000 déjà, avec les gens du canton de Vaud et la France voisine. Mais Genève aujourd'hui donc pêche par un déficit de classe moyenne très très importante, résidant à Genève même. C'est-à-dire, je pense que c'était aussi le sens de votre question sur les impacts transfrontaliers et autres. Il est évident aujourd'hui que, sans exagérer ce qu'on appelle la société en sablier à Genève, en gros, des gens plutôt très riches en haut et pas mal de Philippins déqualifiés, si je reste politiquement correct, pour le bas. Il y a une classe moyenne qui devient de plus en plus étroite et qui, effectivement, Genève a pratiqué. C'est presque impossible non seulement de la loger, mais pour elle également donc de se loger, résider et vivre tout court. Et donc ces gens-là, y compris par exemple les étrangers qui travaillent pour des groupes comme Procter & Gamble et tout, sont maintenant, depuis plusieurs années, logés en France systématiquement. Et aujourd'hui, la ville d'Annemasse, qui ne fait que 30 000 habitants, pas l'agglomération, qui était vraiment donc une crotte de nez face à Genève il y a encore quelques années, construit déjà deux fois plus de logements que tout le canton de Genève chaque année. C'est-à-dire qu'Annemasse en fait 2500 et Genève peine à en faire 1200 chaque année. Donc il y a une situation totalement inversée au niveau de la production des logements. Et ce que Patrick Hewitt suggère très bien, c'est que cette société genevoise qui perd complètement sa classe moyenne quelque part, si on veut refaire une ville de la mixité, c'est pas seulement donc avoir évidemment des emplois et des résidents à proximité, mais c'est aussi à Genève réintroduire une classe moyenne qui peut de toute façon tout aussi bien travailler en périphérie et inversement.
Et la solution pour que cette classe moyenne revienne, c'est donc de lui procurer des logements.
Voilà, et des logements bien sûr d'un certain type. Donc une opération comme ça doit être portée, on ne va pas se voiler la face aujourd'hui, bien entendu, par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que des promoteurs privés dans des systèmes à ce moment-là aider, ils peuvent avoir des bonifications de taux d'intérêt diverses, mais il faut qu'il y ait un portage public pour assurer des logements en dehors d'un système de marché qui n'existe plus aujourd'hui dans le canton de Genève, quasiment. Ou des coopératives qui nous intéressent énormément, ce genre de choses. Je crois qu'un des buts politiques, puisque c'est le sens de votre question, comment chatouiller le politique aujourd'hui, c'est réintroduire une quantité suffisamment importante. Si on parle de 20 000 logements dans cette zone à l'horizon 2020, donc c'est quand même dans une quinzaine d'années, hein, la ville, ce sont des projets à très long terme, c'est effectivement de pouvoir retrouver, donc, avec 20 000 logements, quasiment 100 000 personnes pour refabriquer ces classes moyennes à Genève qui, aujourd'hui, est très, très éclatée, voire disséminée. Voire surtout renvoyé en France pour les derniers arrivants.
Il semblera lire la plupart des médias, et tout parti confondu, que les politiciens se sont un petit peu désintéressés du problème du logement. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Pas correct de la part des politiciens, je veux dire comme jugement.
Comme nous sommes dans une phase très préélectorale, par des sens, il est difficile évidemment de tirer sur l'ambulance actuelle. Hein. J'ai à la Fondation des archives qui ont presque un siècle. Je peux vous assurer en tout cas que depuis plus de 50 ans, y compris dans tous les titres de journaux genevois, la crise est endémique. Alors des fois il y a un petit mieux, des fois c'est pire en pire. Aujourd'hui on est plutôt à nouveau dans le creux de la vague. Mais Genève a de toute façon, on peut le dire presque depuis Calvin, donc connu une crise du logement récurrente, contrairement à une agglomération normale qui s'étend, avec aussi ce que disait Patrick Hewitt, des réseaux régionaux logiques. Enfin, Zurich a son Stadtbahn, un RER qui marche depuis déjà une centaine d'années. Et donc Genève, pour des tas de raisons très, très complexes, qui superposent évidemment tout un tas d'histoires aussi, qui sont plus ou moins intéressantes et sympathiques. Bref, Genève a ce déficit de logement. Donc peu importe le politicien miracle, hein, il y a beaucoup de populisme et d'électoralisme dans tout un tas de propositions. Et je crois que là, ce n'est pas du tout un concours qui est fait pour mettre une surenchère par rapport aux 15 000 logements effectivement proposés par Chambre Genevoise Immobilière ou autre. C'est vraiment un concours d'idées, de projets, pour montrer que le projet urbain est aujourd'hui important sur une longue durée, parce que Genève n'a plus d'avenir, ni de vision, ni de projet urbain.
Donc votre projet n'est pas aussi agressif que cette initiative des 15 000 logements qui apparaît comme une arme un peu électorale ces temps-ci ?
Non, alors il faut se rendre compte qu'il y a d'abord une collision de calendrier qui fait que notre projet de concours tombe dans une période particulièrement sensible du calendrier politique. C'est un hasard un petit peu à la fois heureux et malencontreux. Heureux puisque ça a donné une certaine visibilité à ce concours, malencontreux parce qu'il n'y avait aucune ambition politique dans notre initiative. Moi, je reviendrai simplement sur la spécificité de proposer de construire des logements en ville aujourd'hui. Cette intention-là, cette ambition pour nous, elle est de montrer que finalement, le meilleur endroit pour habiter, le meilleur endroit pour vivre, c'est la ville. Essayer de revenir des illusions du logement à la campagne, etc., qui font que passe finalement la moitié de son temps libre en transport en commun ou en voiture entre son lieu de travail et son lieu de résidence. Et ce que nous voulons montrer, c'est que nous pouvons développer, dans le cas de Genève, un quartier dans lequel on pourrait trouver, comme dans toutes les grandes villes qui présentent de l'intérêt, ces villes qu'on visite avec plaisir, des activités commerciales, culturelles, récréatives, à proximité de son logement, et qui a la possibilité aujourd'hui de construire de la ville. Donc c'est une des ambitions de ce concours.
Patrick Eby, on parlait de quartier, les quartiers de la Praille, des Acacias, et moi j'ai l'impression que c'est une zone, plus qu'un quartier, qui n'a pas encore le cachet, peut-être l'histoire, même voir le patrimoine d'un vrai quartier de la ville. Est-ce que ça aussi, c'est affaire à construire à la Praille?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est une zone complexe qui est en fait composée de parties assez différentes les unes des autres. Il faut imaginer que cette zone, cette portion de territoire, commence donc au bord de l'Arve avec la caserne des Vernets, la piscine, la patinoire et puis également le centre sportif de la Queue d'Arve. Enfin là, il y a des activités assez...
Ce sont des lieux déjà qui sont bien ancrés dans la ville, le théâtre du Loup.
Exactement. Tout ça fait vraiment directement partie de la ville. Ce sont des choses que les gens ont l'habitude de fréquenter. Ensuite, il y a cette zone artisanale et industrielle qui est par endroits très occupés, comme le nouveau siège de Rolex, par exemple, et puis par endroits très peu occupés, notamment toutes ces zones qui sont aujourd'hui utilisées pour la vente d'automobiles, où on stocke surtout les voitures à l'usage des clients qui viennent les regarder. Donc là, il y a des zones que je qualifierais de plus ou moins endormies ou mortes. C'est d'ailleurs assez amusant quand certains hommes politiques vous parlent de ces zones-là en vous disant qu'elles sont totalement impropres à la construction de logements parce qu'elles sont sillonnées de camions et de transports de marchandises. On est très surpris quand on se promène là de constater à quel point elles sont au contraire endormies et peu exploitées. Ensuite, quand on continue à se promener, on entre dans la zone propre à la gare CFF, la gare marchandises, qui est un secteur en soi, un immense périmètre conçu et voulu pour une activité ferroviaire en relation avec l'industrie. Donc des secteurs très différents les uns des autres qui sont par endroits actifs, avec une activité relativement intense, et par endroits passablement endormis.
Donc il faudra grignoter un peu sur l'industrie pour,
Alors il s'agira vraisemblablement de concentrer l'industrie là où il faudra, dans les points qui sembleront les plus appropriés, et puis d'utiliser à d'autres fins d'autres portions du territoire. Et puis de parvenir à créer une mixité d'activités sur ce territoire d'une manière adéquate et intéressante et stimulante.
Justement, au niveau de la mixité, les avis sont différents. Certains partis combattent cette mixité des terrains en invoquant les nuisances sonores, comme vous venez de le faire. D'autres disent que les périmètres doivent être délimités de façon absolument stricte. De manière générale, dans la conception d'une zone, comment les architectes, les urbanistes d'aujourd'hui voient les solutions?
Alors, les architectes et les urbanistes d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais nous voyons les choses comme à traiter de cas en cas. Nous pouvons très bien imaginer des projets dans lesquels une mixité d'activités trouverait tout à fait un sens, et puis les différents composants de cette mixité pourraient s'enrichir les uns les autres, mais il est très difficile de décréter qu'une zone pourra être mixte a priori et sera intéressante par conséquent. Je crois que c'est vraiment une question de projet concret qui permet de juger de l'intérêt et de la validité d'une solution de mixité.
Et au niveau pratique, comment le projet pourrait-il se réaliser? Faudrait-il, puisque c'est possible, faudrait-il raser toutes les constructions basses existantes?
Alors là aussi, je pense que c'est vraiment par étapes qu'il faut fonctionner. Il faut d'abord qu'on visionne ces projets, qu'on essaie de comprendre les intentions des auteurs de ces projets. Il y a certainement des surprises et des choses intéressantes qui vont apparaître, des choses inattendues. Et tirer les enseignements de ces propositions-là. Elles passeront forcément par la démolition de certaines zones du quartier pour y construire d'autres choses, dont ces logements dont nous parlions auparavant. Et puis peut-être certainement également par le maintien de pans importants du quartier, des quartiers, des zones existantes et une combinaison complexe à mettre en place. Donc toutes ces composantes.
Oui, sans anticiper sur de bonnes ou de mauvaises réponses, mais puisque les concurrents n'ont plus vraiment le temps de refaire le projet, on peut y aller maintenant. On peut prendre par exemple l'exemple qui n'est pas comparable avec Genève, mais de Roubaix, qui était donc la ville à côté de Lille en France, très très pauvre. Et ils ont réussi, parce que c'est très rare le mot mixité, souvent c'est une tarte à la crème et ça ne produit rien. Ils ont réussi à fabriquer de la mixité à partir de ces zones industrielles, alors un peu en déshérence quand même, et on peut dire aussi que il y a quelques industries, mais que c'est plutôt le sens de l'histoire de parler de reconversion. Et donc le système de la mixité à Roubaix qui a marché, par exemple, c'est de fabriquer pour les plus démunis des logements là neufs avec des normes de qualité quand même importantes et des aides publiques importantes, donc des interventions neuves lourdes. Et puis alors pour attirer quand même des classes de bourgeoisie moyenne, un peu supérieure et culturellement un peu plus aventureuse, on transforme à ce moment-là des anciennes usines, donc en lofts de luxe, façon new-yorkaise pour faire court, mais qui ont une demande chez ces gens-là et qui de fait produit une mixité intéressante avec des gens qui ont quand même envie d'habiter ensemble sur des programmes légèrement différents, parce que c'est pas du tout le même type de population et d'habitat quand même. Et à Roubaix, ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'on a réussi à attirer des bobos un peu plus, voilà, un peu plus nantis que les malheureux immigrés déqualifiés de la restructuration linéaire et textile de Roubaix, grâce à une attitude patrimoniale et en même temps architecturale aussi intelligente. Il y a du projet architectural nouveau sur du logement social spécifique et il y a de la reconversion patrimoniale très intelligente. Et effectivement, le sens de l'histoire, ça serait plutôt ça. Il ne faut pas ni tout raser, ni tout garder.
Donc ces pôles industriels vont devenir le patrimoine, enfin devraient devenir le patrimoine
de cette
zone.
Voilà. Sauf qu'il faut relativiser un petit peu la chose, c'est que Genève, la Praille n'a jamais été une cité industrielle extraordinaire. Il y a peu de vestiges industriels sur le territoire qui nous occupe. Je dirais le principal vestige, peut-être que les CFF ne seraient pas contents qu'on décrive leurs installations comme ça, mais c'est la gare marchandises. Et son réseau de distribution et d'alimentation des activités annexes qui se trouvent donc en contact direct avec la gare. Ça, c'est un vestige important qui est forcément structurant d'une part importante de ce territoire. Mais le reste, il y a peu ou pas d'usines vraiment remarquables sur ce périmètre-là.
Est-ce que ça pourrait être l'occasion d'un engagement important comme celui, par exemple, qui avait précédé, enfin, la décision de faire de Genève une ville internationale avec la création du quartier particulier? Est-ce que c'est une des dernières aventures qui pourrait nous permettre d'avoir une réalisation architecturale qui soit des fleurons?
Quand Patrick Eby parlait d'un programme assez subtil en mettant aussi le musée, enfin notamment l'ethnographie et des équipements qui déméritent à Genève quand même, l'idée derrière était aussi de reparler du Genève international dans ce quartier, mais qui pas la même catégorie tout à fait de Genève internationale que celle du quartier actuel, dit Genève internationale, qui d'ailleurs a des pénuries de logements phénoménales. On sait que ça se passe maintenant aussi pour eux du côté de la France voisine essentiellement, même s'ils ont des projets pour l'instant qui sont très intéressants quand même. Mais dans ce quartier, il y a un enjeu de restructuration pour aussi une Genève internationale, mais qui par exemple, là encore, les concurrents sont censés avoir fini, mais à Genève, à côté des institutions officielles, on sait qu'aujourd'hui les ONG sont passées peut-être de 50 à 500 ou de 50 à 800. Enfin, personne ne peut les compter exactement. Qu'est-ce que c'est qu'une ONG? Mais donc, c'est la ville au monde qui a le plus d'ONG parce qu'elles n'ont pas intérêt à travailler aux États-Unis directement. On le comprend pourquoi. Et donc, une espèce de synergie forte entre des ONG plus ou moins militantes, plus ou moins intéressantes à tous les niveaux. Enfin, puisque le World Economic Forum en est une, mais eux, ils trouvent à se loger à Colonie. Et puis, des ONG extrêmement, donc, pour l'instant, des Argentés qui veulent quand même travailler à Genève, en synergie avec les autres ONG, les autres organisations internationales, ne peuvent pas aller dans le quartier international actuel. Donc là, on peut imaginer qu'un vrai coup de force en projet urbain permette d'un seul coup d'ouvrir, justement. Donc là, c'est pas du coup par coup. Offrir d'un seul coup des centaines de milliers de mètres carrés à des ONG, les loger aussi, et trouver des équipements d'accueil, et faire de Genève un nouveau pôle, effectivement, de la grandeur de ce qu'on appelle l'esprit de Genève.
Mais quand vous parlez de coup de force, vous voulez un signal politique fort, c'est cela ?
Oui, quelque part, c'est évident aussi que, quand Patrick Kéby disait justement avec vous que Genève n'était pas une ville très industrielle, c'est vrai que dans les villes plus industrielles, comme Zurich ou autres, en général, les friches, il y a des plans d'urgence pour utiliser des friches qui sont massivement aujourd'hui, évidemment, désaffectées. Alors, Genève, n'ayant jamais eu une grosse politique industrielle, étant plutôt sur des secteurs un peu comme l'horlogerie, la parfumerie, un peu élitiste et au coup par coup, n'a jamais eu l'idée de ce plan d'urgence. Mais ce qui est plus grave, c'est que du coup, à force de ne pas avoir de plan d'urgence, ils n'ont pas de plan tout court. Et donc, il y a quand même un coup de force politique important aujourd'hui à Genève. Et je crois que tout le monde l'attend malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas la responsabilité des architectes, de la Fondation Braillard et de Radio Cité.
On a l'impression que les concurrents de ce concours, en plus d'avoir une vision, d'apporter une vision de la Praille, doivent déjà avoir aussi une vision bien précise de Genève, de ce qu'est Genève et de comment...
Mais pas forcément. Je crois qu'il faut vraiment imaginer que, comment dire, on peut avoir une ambition pour une ville qui peut être une ambition en partie déconnectée de sa réalité d'usage. Je peux très bien imaginer qu'on aura on va découvrir des propositions qui seront intéressantes comme forme urbaine, comme proposition de mixité, sans qu'elle soit pour autant insérée, qu'elle s'inscrive dans un programme à l'échelle du canton ou du Grand Genève, ou avec des activités très particulières pensées pour ce quartier-là. Donc, moi, je suis très curieux de découvrir ces propositions, et je pense que les visiteurs, les jeunes voix qui viendront les découvrir pourront projeter sur ces propositions des scénarios qui vont être très différents les uns des autres.
Il semblerait que, d'après de nombreux protagonistes, enfin, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient parmi les architectes, beaucoup avouent un sentiment ou une idée d'impuissance par rapport à la capacité de provoquer des changements.
C'est difficile d'être réactif. Je veux dire, c'est pas parce que Genève va mal. On l'a dit depuis 50 ans, de toute façon, c'est pas la production urbaine à Genève qui qualifie Genève. Genève existe pour autre chose que sa productivité urbaine. Et donc, on ne peut pas être réactif comme ça en disant aujourd'hui on a une recette miracle. Il y a beaucoup trop de données en jeu, notamment bien sûr des crispations foncières. On va en reparler tout à l'heure peut-être de la zone agricole et ce genre de choses. Donc, effectivement, nous à la Fondation Braillard, par exemple, beaucoup de gens aimeraient dans notre premier cercle qu'on trouve des solutions comme Maurice Braillard en avait eu, mais un peu utopiste dans les années 30. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas comme ça être réactif du jour au lendemain en disant attendez, on a une solution miracle. On multiplie là tout un tas de couches très complexes, et aujourd'hui on sait que les expertises, d'ailleurs ce ne sont pas seulement les architectes, d'ailleurs le concours lui-même était aussi ouvert à des urbanistes qui pouvaient être économistes tout court, des paysagistes et toutes sortes d'idées.
Mais est-ce que c'est aussi dû à ce qu'on a appelé les plans alvéolaires, je crois, des années 60, où tout était véritablement décidé ou envisagé en fonction de quartiers ou de communes et qui empêchait une vision d'ensemble ?
C'était une forme de vision d'ensemble. Simplement, effectivement, on procédait par quartier dans ces plans alvéolaires, mais en fait, ce qu'on peut appeler les grands ensembles, presque à la française, d'ailleurs là, Genevois, comme le Lignon, Mérin, bon, et d'autres, sont des morceaux de ville autonomes, y compris Tonnet à la frontière de Moelle-Sulla, d'ailleurs, même si après, on a l'impression de traverser le Rio Grande pour certains Genevois quand on arrive du côté d'Annemasse, mais c'est évident que ce sont des quartiers qui ont maintenant le mérite d'exister, avec des problèmes de population, des fois, un peu plus simples que les quartiers lyonnais, pour prendre un exemple pas très lointain, mais c'est pas en tout cas il n'y a pas de cause directe entre des plans alvéolaires peut-être un peu utopistes dans leur écriture et les problèmes que connaît Genève aujourd'hui.
Patrick Aimé, vous devez nous quitter pour votre concours. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez reçu beaucoup de projets. Est-ce que vous savez s'il y a de grands noms, des architectes suisses ou étrangers qui se sont annoncés ?
Alors, il faut savoir que c'est un concours qui, comme les meilleurs concours d'architecture, est un concours anonyme. Donc, ça va se passer comme ça. On va découvrir des propositions qu'on va, j'espère, découvrir intéressantes. On va les analyser, les juger. On va définir et décréter quelles sont les meilleures parmi elles. C'est le travail du jury. Et arrivé au terme de ce travail, on va ouvrir les enveloppes qui porteront la même devise que les différentes propositions. Et c'est uniquement à ce moment-là que nous allons découvrir qui sont, d'une part, les auteurs des projets lauréats, mais simplement qui sont les participants à ce concours. Donc nous n'avons absolument aucune idée aujourd'hui de la nature et de la qualité des concurrents.
Donc pratiquement pour le public, enfin pour nous, quand est-ce qu'on pourra prendre connaissance des projets?
C'est extrêmement clair. Il y aura une conférence de presse un peu avant midi, le 19 octobre, sauf erreur, et l'exposition des projets ouvrira le même jour, le 19 octobre, sur le lieu de l'exposition, dont je dois vous avouer, je n'ai plus tout à fait l'adresse en tête.
Oui, il y a beaucoup de débats aussi d'ailleurs sur le lieu d'exposition, parce que l'idéal était de le faire à la Praille dans un espace énorme, et puis ensuite il y a d'autres lieux plus centraux, et puis il y a d'autres lieux.
Mais nous en avons à la Praille, voilà. Que nous avons, qui est maintenant arrêté. Simplement, je suis navré, mais j'ai plus l'adresse en tête, mais nous allons la communiquer abondamment par la voie d'une campagne d'affichage, d'ailleurs, qui va commencer ces prochains jours. Et donc, le public intéressé sera largement informé. Mais
ce qu'on peut dire quand même, c'est que, mettons qu'il y ait un petit secret à demi dévoilé, à peu près une petite centaine de projets quand même dans les normes qui arrivent correctement, il y en a quand même 50 qui seront passionnants. Et là-dessus, on sait qu'il y a quand même beaucoup plus qu'une moitié, mettons 65% d'étrangers, avec des gens qui viennent d'ailleurs des quatre continents, mais beaucoup d'Européens, comme l'a dit Patrick.
Et Patrick, comment votre projet, cette incursion dans le domaine, a-t-elle été reçue? Est-ce que vous avez été critiqué dans le milieu politique et autres?
Alors je dirais que nous avons reçu un accueil très variable. Il y a eu d'abord peut-être un petit peu d'incrédulité. C'est vrai que même si cette initiative a finalement rien d'extraordinaire à l'échelle même nationale, voire internationale. Des concours comme celui-ci voient le jour assez régulièrement. Ce qui est peut-être particulier, c'est que ce concours soit organisé par quelqu'un qui n'est pas, une entité qui n'est pas maître de l'ouvrage, n'est propriétaire de rien du tout là-dedans. C'est vraiment une ambition académique. Donc cette situation-là, atypique, a suscité un petit peu de surprise et puis peut-être d'incompréhension au départ. Parfois, elle a rencontré beaucoup d'enthousiasme, et puis parfois également une réaction de rejet. Donc, justement, comme nous sommes dans une période électorale, je préférais pour le moment ne pas rentrer dans le détail de à qui ont appartenu ces différentes réactions, mais disons que nous avons eu des réactions très contrastées. Mais le résultat est un accueil très favorable, puisque pour organiser ce concours, nous avons eu besoin du soutien concret et actif d'organismes comme la Fondation Braillard, d'ailleurs sans laquelle ce concours n'aurait pas vu le jour, mais également le soutien financier de toutes sortes d'organismes privés à vocation culturelle ou économique qui nous ont permis de monter cette opération.
Et Bruno Vesser, puisque c'est un sujet qui vous est cher, parlons de la Genève transfrontalière. Récemment, la délégation à l'aménagement du territoire et l'action régionale de France,
Dattard,
oui, vient de retenir le projet de métropolisation franco-valdo-genevoise.
Eh bien, c'est effectivement un scoop quelque part, parce que régulièrement, mettons tous les 20 ans en France, on sélectionne, on reprend un peu les mêmes grandes villes, mais des assemblages comme ça de ce qu'on peut appeler des grandes métropoles pour provoquer ce qu'on appelle en France des grands projets urbains, donc ce qui n'existe pas du tout en Suisse pour des tas de raisons qui sont plus compliquées, notamment de recours et de faiblesse du politique local. Donc en France, ces grands projets urbains qui sont stimulés par l'État et le pouvoir central, avec quelques milliards d'euros à la clé pour les villes qui reçoivent ce label, donc font partie en général d'un club très fermé entre 5 et une quinzaine de villes. Et donc là, pour la première fois, effectivement, Genève, qui n'est pas, bien entendu, française dans les textes, mais qui a une couronne française qui n'est pas la plus pauvre de France aujourd'hui, hein, donc toute cette couronne transfrontalière qui fait à peu près 300 000 habitants, puisqu'elle va très loin, quasiment jusqu'à Annecy aujourd'hui, dans le pays de Gex, encore assez loin aussi, a été donc qualifiée de métropole avec le canton de Genève, bien sûr, dedans. Mais le chef administratif de tout ça, c'est bien entendu le maire d'Annemasse, qui est lui-même le chef de la communauté de communes la plus importante de la couronne française, Robert Borel. Et il s'agit, à travers tout ça, de tisser un certain nombre là d'actions transfrontalières importantes, dont, par exemple, un véritable plan d'attaque qu'on appelle plan directeur du logement transfrontalier.
Je disais par exemple dans le journal Le Monde la semaine dernière où il écrivait que Genève constitue bien le cœur de ce bassin, la deuxième agglomération économique de Rhône-Alpes après Lyon. On a presque l'impression de se trouver dans une région française.
C'est plus subtil et pervers, c'est-à-dire que vu de Lyon, il y a deux lectures possibles, où Genève est concurrente de Lyon, par exemple les aéroports, et en ces cas-là, la capitale de la région Rhône-Alpes, qui est aussi la deuxième région de France avec 6 millions d'habitants, donc presque l'équivalent de la Suisse, a intérêt un peu à flinguer Genève malgré tout économiquement, pour pas avoir de concurrentes trop proches, ou inversement, effectivement, pour des raisons aussi d'amitié politique, aujourd'hui la région donc est plutôt socialiste, la ville de Lyon aussi, le Genevois français l'est, un peu comme le Tour de Monaco est communiste, hein, on comprend très vite pourquoi, mais il se trouve qu'à Genève également, donc que ce soit dans le canton ou à la ville, un certain nombre donc de titulaires politiques le sont avec bonheur. Et donc, il y a des ententes qui filtrent très bien politiquement. Donc là, Lyon a deux possibilités. Et puis Paris lui-même, vu là, puisque je vous ai parlé de milliards parisiens quand même pour injecter dans cette métropole, notamment des infrastructures et des gros équipements, Paris a tout intérêt, lui, à pousser Genève, parce que Genève reste quand même la principale ville francophone du commerce international. Donc pour faire court, si Paris vend des Airbus à la Chine, c'est grâce à Genève. Donc Paris n'a pas tout à fait la même politique que Lyon, et donc c'est vrai que Paris, elle, a intérêt à faire une vraie métropole genevoise, en expliquant que cette métropole genevoise est grossièrement 50-50. Moi, je disais toujours, il s'entendait pas bien au XVIIIe siècle, mais l'aéroport aurait pu s'appeler Rousseau-Voltaire, pour deux transfrontaliers justement connus de l'époque.
Dans le dossier qui est porté par l'Association régionale de coopération, l'ARC, qui est présidé par le maire d'Annemasse que vous venez de nommer, et par Laurent Moutineau, et il regroupe 111 communes. Alors, l'objectif
111 communes françaises.
111 communes françaises, les cantons de Genève et de Vaud.
Voilà, donc ça fait presque 200 communes, avec les communes vaudoises et les presque 49 communes genevoises.
Alors, il stipule que l'objectif de l'association est de mettre sur pied une véritable agglomération transfrontalière capable de mener un plan global de développement compétente en matière de transport, urbanisme, logement, économie, formation, santé, environnement et culture.
Oui, parce que notamment, vous souriez en évoquant les plans alvéolaires il y a quelques minutes, mais bon, c'était quelques jolis coups de crayon de grands employés, disons, du département d'urbanisme du canton. Et aujourd'hui, ce qui manque à Genève pour une agglomération de cette importance quand même et de cette taille, même si c'est pas encore Bangkok, comme le disait Patrick Eby en aparté, ce qui manque réellement quand même à Genève, c'est une véritable agence d'urbanisme de l'agglomération. C'est-à-dire une agence qui est au-dessus des petits fiefs locaux politiques et qui a de véritables visions de synthèse au niveau des infrastructures. Donc c'est vrai que par exemple là, la Fondation, autant je ne veux pas vous donner pour demain des recettes réactives au premier degré, autant militer pour une véritable agence d'agglomération d'urbanisme me semble très intéressant.
Donc il manque en fait les idées pour construire la cité du futur globalement.
Ce ne sont pas des idées, parce qu'aujourd'hui, ce sont donc encore une fois des expertises très complexes et très multiples. On ne savait pas si, quand on parle du CEVA tout à l'heure, qui ira donc de Thonon à Lausanne, en fait, un véritable RER, dans la plupart des agglomérations, les gens ont quand même envie d'habiter de plus en plus loin de la ville-centre et non pas de revenir au centre, comme le disait peut-être un peu naïvement Patrick Eby, parce que les architectes aiment bien les centres-villes eux-mêmes et ils font de la bicyclette.
Pourtant, il y a une tendance où on dit que les personnes âgées ou arrivant à la retraite veulent réhabiter en ville.
Alors c'est vrai que Chicago, par exemple, qui était la première ville américaine très très étalée il y a déjà presque un siècle, et avec l'automobile encore plus dès les années 20, sont des villes aujourd'hui où on constate une tendance de retour au centre-ville, mais à différents niveaux. Encore une fois, bon, ce ne sont pas des idées comme ça très 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 simples forcément.
Mais qui va décider alors de comment faire une ville dans le futur.
Alors, à nouveau, c'est même pas une ville aujourd'hui, puisque je plaisantais à moitié en disant que quand on passe après ce quartier un peu soviétique de Tonnet, habité surtout par une communauté portugaise, le Foron, et qu'on arrive à Moelle-Sula, certains pensent passer le Rio Grande, arriver au Mexique, et puis finalement, on s'aperçoit qu'Annemasse, comme je le disais, avec un taux de construction de logements deux fois plus élevé que le canton de logement de Genève, avec 10 fois moins d'habitants, rien que la ville, devient aujourd'hui une véritable ville à part entière, avec un marché absolument unique et tout un tas d'équipements aussi extraordinaires, donc qui sont dans la collaboration d'ailleurs, que ce soit pour le festival de la bâtie ou tout un tas d'autres choses. Donc il n'y a pas une ville, il y aura plusieurs noyaux de ville avec des gens et une mobilité surtout de plus en plus importante, quoi qu'il arrive. Et là, la bagnole a gagné, malheureusement.
Mais pour diriger ces noyaux, il faut préconiser un centre.
C'est pas un centre, c'est pas aussi simple que le confesseur unique. Il n'y a pas non plus forcément un décideur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des gouvernances complexes, d'autorité, d'agglomération. Et c'est pour ça que l'arc dont vous parliez, c'est plutôt un échafaudage prudent, complexe. Il faut plutôt des complicités politiques, des affinités, pas de populisme, pas de provocation, justement. Il faut des gens, à la fois des techniciens et des politiques soucieux de faire avancer les choses.
Eh bien, Bruno Vézière, j'espère que nous pourrons en parler quand vous aurez les résultats du concours. Et ça sera, disons, une véritable... Enfin, on pourra passer en revue les détails pratiques.
Oui, de toute façon, bon, le concours lui-même, à nouveau, c'est vrai que c'est le renouveau au centre d'une partie du centre-ville. C'est faire un deuxième centre-ville. 220 hectares, c'est pratiquement aussi grand que le centre-ville actuel. C'est quand même énorme comme zone.
Alors, rendez-vous après le 19 octobre.
Bien sûr, avec plaisir.
Merci beaucoup.